préférée dans la parole de Dieu, qui se trouve en Colossiens chapitre 3 à partir de verset 18 que nous allons lire ensemble. Le sujet, c'est la famille. Ce chapitre commence avec les certitudes de notre appel en Jésus-Christ, chapitre 3, les quatre premiers versets. Ensuite, nous verrons du chapitre 5 jusqu'au chapitre 6 les caractéristiques de cet appel de suivre Jésus. D'abord, ce que vous avez vu, je pense, la semaine passée, dans notre vie quotidienne. Et aujourd'hui, on va voir dans notre foyer, notre famille, et aussi, on va finir avec nos relations au travail et au service. Donc, je vous invite à lire avec moi Colossiens, chapitre 3, à partir de verset 18 jusqu'à la fin du chapitre. Merci. Et je lis la traduction. Comment c'est? Oui, c'est la nouvelle version de seconde, révisée. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Donc ça commence avec difficulté dans notre société actuelle, n'est-ce pas? Marie, aimez chacun votre femme et ne vous agressez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, et cela non seulement sous leurs yeux comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice, et il n'y a pas de considération de personne. On va s'arrêter là pour l'instant, ou peut-être on va lire le premier verset du chapitre 4. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Voilà notre texte pour aujourd'hui. Et on va examiner quelques versets du chapitre 4 avec les caractéristiques de notre appel, notre vie de prière et finalement notre manière de parler, notre témoignage dans la société. Alors, en parlant de la foi en Christ transforme carrément non seulement les individus, mais aussi les familles entières. Dans ce chapitre, Paul s'adresse aux membres de la famille, mari, femme, enfant, même serviteur dans la maison. Et c'est clair que Paul s'adresse ici aux chrétiens. Ce n'est pas aux non-chrétiens, c'est aux chrétiens, car il les encourage à vivre pour plaire à Jésus-Christ. Ah, ça marche. Il faut être honnête. Il y a quelque chose qui ne va pas dans nos familles aujourd'hui. La famille se porte mal. Les statistiques ne sont pas bonnes pour les foyers. Par exemple, ils nous disent un enfant entre 1 et 6 ans passe en moyenne 2 heures par jour devant les écrans. Les enfants à 1 à 6 ans. Un enfant entre 7 et 12 ans passe en moyenne 3 heures et demie par jour devant les écrans. Et puis, un enfant entre 13 et 19 ans passe en moyenne 5 heures par jour devant les écrans. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et ça, je ne sais pas si ça compte vraiment le fait que les jeunes ont des téléphones. Et là, j'ai lu qu'ils passent minimum 15 heures par jour sur le téléphone. Je pense que c'est compris. En tout cas, le nombre d'enfants maltraités aussi est énorme et en progression tous les jours. Donc, je peux dire ce matin que les statistiques pour la famille, elles ne sont pas bonnes. Et pourtant, quand on regarde la famille, La famille est la première institution fondée par Dieu, Genèse chapitre 2, la création de l'homme et la femme et la famille. Alors, ce qu'on voit dans la famille manifeste ce qu'on verra dans la société et dans le pays entier. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Attention, la destruction de la famille est un signe de la fin des temps. Il y a des versets en Timothée, 2 Timothée chapitre 3. Je vais juste lire quelques versets ici. 2 Timothée chapitre 3, où il commence en disant « Sache que dans les derniers jours surgiront les temps difficiles. » C'est un peu notre époque. « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils ne renieront la puissance. » Éloigne-toi de ces hommes-là, il dit. C'est incroyable combien ça explique, ça décrit notre société actuelle, n'est-ce pas? C'est pourquoi la Bible nous enseigne, au sujet de la construction des familles chrétiennes qui sont centrées sur Christ. Dans notre texte, ici en Colossiens, nous voyons que Paul s'adresse aux différents membres de la famille pour donner les éléments nécessaires à l'établissement d'un foyer solide. Alors, quels sont les éléments? Le premier élément, mari et femme. Mari et femme, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'amour et la soumission. L'amour de la part des maris, la soumission de la part des femmes. Versets 18 à 19. Ça commence mal pour certains. Même ce mot « soumission » aujourd'hui est mal compris. On a les élections aujourd'hui et il y a un contexte, il s'appelle le parti insoumis. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui, pas la soumission. Mais Paul commence avec les femmes, pas parce qu'elles avaient plus besoin. C'est parce que l'Évangile a libéré les femmes. L'Évangile a donné, a changé les donnes pour les femmes. L'Évangile a donné cette nouvelle liberté et qui était un statut difficile pour certaines femmes à gérer parce que c'était nouveau. Aujourd'hui, on regarde en arrière, on dit « Ah, yeah. » Mais pour eux, c'était spécial. Donc, la soumission ne devrait jamais être comprise comme esclavage ou assujettissement. Le mot vient d'un vocabulaire militaire. Si vous avez fait l'armée en France, vous connaissez. Le mot vient du vocabulaire militaire qui veut dire simplement accorder un grade nécessaire. Le fait qu'un soldat soit simple soldat et un autre soit colonel ne signifie pas qu'il soit meilleur que l'autre. C'est simplement qu'ils ont des grades différents. Parce que sans une sorte de hiérarchie dans la société, c'est le chaos qui régnerait. Dieu le sait. Donc, la soumission de la femme n'implique pas du tout que l'homme soit meilleur que la femme. C'est simplement qu'il a la responsabilité au foyer de diriger son foyer. Non pas comme dictateur, comme seigneur de tout, non. Mais qu'il soit responsable, plein d'amour. On va voir ce que ça veut dire. L'homme et la femme doivent se soumettre d'abord au Seigneur, et puis à l'un à l'autre. C'est Éphésiens 5, verset 21, « Vous soumettant l'un à l'autre, dans un respect mutuel, mari et femme. » Voici le secret, mes amis, pour le couple et leur croissance et la plénitude pour créer justement une atmosphère de croissance où le mari et la femme deviennent tout ce que Dieu veut qu'ils soient. Le mari, pour sa part, a le devoir d'aimer sa femme, il dit. Pas n'importe comment, avec un amour agapé. On a du mal à comprendre ce mot. Un amour agapé qui conduit justement au sacrifice et service. Exactement comme Christ a aimé l'Église, exactement comme Christ a fait pour l'Église. Au début du mariage, comment ça se passe? Moi, j'ai fait beaucoup de mariages ici en France pour les gens. Et c'est toujours amusant parce que ça commence avec un amour normal, si je peux dire, humain, romantique. Le problème, c'est que cet amour doit progressivement se transformer en amour spirituel. Comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné pour elle. C'est là où on a du mal, n'est-ce pas? Et Paul rajoute, je cite de la version Parole vivante, « Ne laissez pas, verset 19, « Ne laissez pas l'amertume ou le ressentiment envahir votre cœur. » Pourquoi? Parce qu'une racine d'amertume peut empoisonner toute la relation du couple. Ça peut même ouvrir une porte à l'ennemi Satan pour mettre son pied. Hébreux 12, verset 15, « Veillez à que aucune racine d'amertume pousse. » Et ça me rappelle de ce que Paul a dit en Corinthiens 13, ce chapitre sur l'amour qui est tellement beau. L'amour est patient, plein de bonté, pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas et ne soupçonne pas le mal. Alors Marie, pour nous, la barre est haute. Une femme, franchement, elle n'aura pas de problème à cette question de soumission, à se soumettre à un mari qui aime de cette manière. Ça colle ensemble. Un mariage heureux ne vient pas automatiquement. Non, il faut travailler constamment. Quand il y a de l'égoïsme, c'est là où le conflit et les divisions prennent place. Alors comment faire? Parce que si vous êtes comme moi, on lit ces choses et on dit, c'est presque impossible, non? D'où vient la force nécessaire pour cet amour et soumission ensemble pour travailler? Mes amis, ça vient tout simplement du Seigneur. C'est-à-dire, si nos cœurs sont remplis de Christ et de sa parole, nous aurons ce qu'il faut pour l'harmonie dans le couple et nous bâtirons des mariages solides, les foyers chrétiens qui reflètent Jésus-Christ. Mais ce n'est pas très simple. Donc, le premier élément pour un foyer solide, c'est l'amour et la soumission. Le deuxième élément, c'est par rapport aux parents et les enfants. Là, il faut, de la part des parents, l'encouragement et de la part des enfants, l'obéissance. Versets 20 et 21. Vous savez, les enfants, ils font partie du foyer chrétien et Paul s'adresse aux responsabilités des parents vis-à-vis de leurs enfants. Heureux sont les enfants qui naissent dans les familles chrétiennes où l'amour et la soumission demeurent. Franchement, aujourd'hui, on entend beaucoup parler, n'est-ce pas, des droits des enfants. Et c'est vrai, ils ont des droits. D'abord, ils ont le droit de naître, donc non à l'avortement. Ils ont aussi le droit d'avoir des parents attachés au Seigneur, qui leur enseigne la parole de Dieu, qui les apprend à aimer Dieu aussi. Les enfants, ils ont les droits, mais ils ont aussi des responsabilités, et la première responsabilité, selon ce texte, c'est l'obéissance. Ils doivent obéir comment? Il dit en toutes choses. Non, pas quand ça leur plaît. Vous voyez, ça marche. Les parents soumis au Seigneur ne demanderont jamais aux enfants, à leurs enfants, à faire quelque chose de mal, parce qu'ils les aiment. Ils aiment Dieu d'abord, ils aiment mari et femme, et ils aiment leurs enfants. Les enfants qui n'apprennent pas l'obéissance au foyer, attention, plus tard, ils mépriseront toute autorité. Et c'est ce qu'on voit dans notre société actuelle. C'est pourquoi l'effondrement de l'autorité dans notre société reflète d'abord l'effondrement de l'autorité dans la famille. Normalement, ce n'est pas les enfants qui créent les problèmes. En fait, c'est les enfants qui font monter à la surface les problèmes qui existent déjà. Et c'est ce qu'on voit. Jusqu'à quel point l'enfant doit-il obéir? Ben, qu'est-ce qu'il dit, verset 20? En toute chose. Ah ben dis donc. Et quelle est la motivation? C'est marqué, le désir de plaire au Seigneur. Attention. Si les parents ne sont pas soumis au Seigneur à leur tour, on ne peut pas attendre que les enfants s'y mettent. Pas possible. Eh bien, comment est-ce que ça marche? Moi, je dirais qu'une famille qui vit dans une ambiance d'amour et de vérité, qui lit la parole de Dieu ensemble, qui prie ensemble, aura beaucoup plus de facilité, en fait, pour découvrir la volonté de Dieu et pour lui plaire et pour avoir cette harmonie dans le contexte de la famille. Les parents doivent autant que possible aider leurs enfants à apprendre l'obéissance. Il dit, verset 21, « N'irritez pas vos enfants ou n'exaspérez pas vos enfants. » Et ça veut dire, on demande des enfants, quand ils viennent, « Papa, maman, il faut prendre du temps pour les écouter et évaluer leurs demandes et les aider à comprendre pourquoi la réponse est oui ou non. » C'est comme ça que ça construit une famille solide. Et attention aux parents qui changent souvent leur avis et qui soient divisés peut-être entre eux devant les enfants. Franchement, les parents, selon le texte, ils ont un rôle d'encourager les enfants et non pas les décourager. Ça veut dire qu'il faut passer du temps avec les enfants. Et du temps, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. J'ai lu une enquête, ça me voit presque comme, c'est pas possible que ce soit vrai, mais j'ai lu une enquête aux États-Unis qui indiquait, et je pense que si c'est comme ça aux États-Unis, ça peut être beaucoup plus en France, mais qui indiquait qu'un père passe en moyenne combien de temps par jour? 37 secondes. Bien sûr, il parle de... du fait de passer du temps à bien discuter, une discussion tête à tête, pas simplement de dire cherche celui, ceci, cela, ou on est dans la même pièce au même temps, ça compte pas. C'est discussion tête à tête avec un enfant. 37 secondes par jour, c'est inimaginable. Mais les enfants ont besoin de savoir que les parents, même s'ils sont bien occupés, les aiment assez pour passer du temps avec eux. C'est nécessaire. Et je sais ce qu'on voit. Hein. Les enfants découragés sont vraiment une proie pour Satan et le monde. Parce que quand la personnalité d'un enfant n'est pas affermée à la maison, dans son foyer, attention, elle sera ailleurs. Et c'est ce qu'on voit. Les enfants ne sont pas les armes non plus. C'est-à-dire, attention, quand le papa ou la maman interdit à l'enfant à faire quelque chose, et puis il va voir l'autre, la maman ou le papa, et là c'est permis, qu'est-ce que ça fait? Cet enfant est pris entre les parents. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va apprendre d'exploiter la situation. Et mettre parent contre parent. Le foyer doit être un lieu d'encouragement pour l'enfant. L'endroit où il trouve un refuge au combat dans ce monde, où il peut puiser la force pour lutter, pour grandir spirituellement en maturité. Alors, deux questions pour vous. Qu'est-ce que vos enfants trouvent chez vous? Qu'est-ce que vos enfants trouvent dans votre foyer? Deuxième question. Est-ce que votre famille est un lieu où l'enfant apprend à faire confiance à Dieu, à Christ, et pour vivre pour lui? Maintenant, regardons le troisième élément pour un foyer solide. Il parle maintenant aux maîtres et serviteurs en disant « Il faut l'honnêteté et le dévouement. » L'honnêteté de la part des maîtres et le dévouement de la part des ouvriers, des serviteurs. C'est le verset 22 jusqu'au verset 1 du chapitre 4. Bien sûr, dans ce texte, de ce contexte, il parle de l'esclavage. L'esclavage était la norme au jour de Paul. Près de la moitié de la population à Rome était esclave. Vous imaginez? Souvent, les esclaves avaient un rôle, des responsabilités très importantes au sein de la famille. Et il dit ici qu'un serviteur chrétien avait le devoir d'obéir en toutes choses. Waouh! C'était son service pour le Seigneur. Alors, ça veut dire que s'il avait un maître chrétien, il ne fallait pas abuser de la situation avec le prétexte qu'ils étaient tous les deux chrétiens, donc en effrayant un Christ, on fait ce que je veux. Non. Au contraire, si c'était le cas, ils devaient mieux travailler parce qu'ils étaient tous les deux chrétiens. Et versets 23 à 25, il dit « Servez donc Christ ». On doit servir fidèlement pour obéir à Dieu. Dans notre société actuelle, bien sûr, il n'y a plus d'esclaves, normalement. Mais nous pouvons appliquer ces principes à n'importe quel emploi, par exemple. Un travailleur chrétien devait être le meilleur à son travail. Il devait servir Christ, pas uniquement son patron. Et sa récompense est avec le Seigneur. Même si le patron ne voit pas ou ne récompense pas l'ouvrier. Dans le monde de travail complexe et compétitif aujourd'hui, je sais que ce n'est pas simple du tout. Il est difficile pour le chrétien d'obéir à Dieu et de garder son emploi et surtout obtenir une promotion au travail. Mais il doit, selon le texte, malgré tout, obéir à Dieu et lui faire confiance, ce qui est difficile des fois. C'est comme les époux et les membres d'une famille ont des responsabilités mutuelles, réciproques. Aussi, les maîtres et les serviteurs en ont également. Les maîtres doivent traiter leurs serviteurs avec honnêteté et avec justice. Une idée nouvelle à l'époque, à Rome, dans une société où les esclaves étaient considérés comme des objets et non pas comme des êtres humains. Les maîtres chrétiens devaient traiter les esclaves comme des êtres humains et même comme frères et sœurs en Christ. Verset 1 du chapitre 4. Vous voyez combien cet épître que vous êtes en train d'étudier ensemble, combien il est pratique et qu'elle montre combien nos vies devraient montrer Christ en toutes choses. C'est très pratique. Être rempli du Saint-Esprit signifie être dirigé par la parole de Dieu. Et la plénitude du Saint-Esprit et la parole, ils vont toujours de pair pour les relations harmonieuses, surtout dans la famille. Ce sera la joie, l'harmonie, la reconnaissance, la soumission. Ce sont des attributs d'une famille. Quelqu'un a dit qu'au cœur de tout problème se trouve un problème de cœur. Seul le Saint-Esprit et la parole peuvent changer et dominer ce cœur qui apporte des problèmes. Et dans ta famille, encore une question, dans ta famille, Est-ce que les gens peuvent voir que tu es rempli par l'Esprit et par la parole, ce qui est nécessaire? Maintenant, on va changer un peu et continuer. Paul donne ici des éléments nécessaires. Voilà. Il termine le discours ici avec les ministères importants au chapitre 4 à partir du verset 2. On va lire ces versets. C'est très intéressant comment il termine. Il dit, verset 2 du chapitre 4, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez également pour nous que Dieu ouvre une porte à notre parole afin que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. » Il est en prison, Paul, et il prie pour une porte ouverte. Et on parlait clairement comme je le dois. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux de dehors. Rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Donc, premier élément, le ministère que Dieu nous donne, c'est la prière. Et c'est normal, parce que si un chrétien comme l'apôtre Paul ressentait le besoin d'être soutenu par la prière, à combien plus forte raison vous et moi, nous en avons besoin, n'est-ce pas, dans la société où nous vivons. Et selon Paul, cette prière doit être comment ? Elle doit être fidèle, il ne faut pas l'abandonner, il faut que ce soit la prière soit vigilante. Il faut rester réveillé, éveillé. On trouve souvent cette phrase, veiller et prier, n'est-ce pas? La prière doit être aussi reconnaissante. Et puis, elle doit avoir un but, selon le verset 3. La prière, premier ministère. Est-ce qu'on passe du temps dans la prière? Deuxième ministère, c'est l'annonce, la proclamation de cette parole, versets 3 et 4. Et c'est intéressant que Paul n'ait pas demandé à Dieu d'ouvrir la porte de la prison. Il demande à Dieu d'ouvrir la porte pour annoncer l'évangile. On sait que ces deux choses, la prière et l'annonce de l'évangile, les deux vont ensemble. La proclamation de l'évangile devient puissante par la prière, par l'aide de Dieu. Ensuite, il y a le témoignage aux perdus. Ces deux derniers versets, versets 5 et 6. Il dit de nous conduire avec sagesse, verset 5. Pourquoi ? Parce que nous sommes observés de manière très critique aujourd'hui par le monde autour, par les non-chrétiens, pour voir si notre vie soutient nos paroles, n'est-ce pas? La conduite et les paroles doivent être en harmonie parce qu'une vie irréfléchie devient un obstacle pour nos paroles. Mais quand ces choses vont ensemble, la conduite, le comportement, nos paroles, quand ça concorde, le témoignage est très fort. Alors, je vais terminer avec quelques questions. Je fais toujours en marche arrière. Quelques questions. La première question, comment va ta vie de prière? Si c'est tellement nécessaire, comment va ta vie de prière? Je sais, pour moi, c'est difficile. Heureusement, je prie tous les jours avec ma femme aussi, mais ça dépend vraiment comment nous allons vivre. Et puis, deuxième question, comment va ta manière d'annoncer l'Évangile? Si ça fait partie de ce qu'il attend de nous, est-ce qu'on attend que ce soit les pasteurs ou quelques responsables qui font ça? Ou est-ce qu'on réalise que c'est le travail de tout le monde qui connaisse le Seigneur d'annoncer cette vérité? Et puis, ton témoignage. Est-ce que ton témoignage s'accorde avec tes paroles? Deuxième chose, en résumé, l'amour et la soumission sont nécessaires dans la vie du couple. Ça va chez vous? L'encouragement et l'obéissance est nécessaire de la part des parents vis-à-vis des enfants. Ça va? Et puis l'honnêteté et le dévouement au travail pour les responsables et pour les ouvriers. Dieu nous donne des choses très pratiques à vivre. Pas facile, mais très pratiques. Alors j'espère que ce matin, Dieu vous parle, qu'il vous donne des idées pour la famille. On va terminer dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants pour ton aide tous les jours. Franchement, ce n'est pas facile. La barre est mise très haute. Mais merci Seigneur que tu es là pour nous aider. Encourage-nous de passer du temps dans ta parole, dans la prière, de partager ton amour entre couples et vis-à-vis de mari et femme qui peuvent ensuite toucher les enfants pour créer cette ambiance d'obéissance où la famille puisse être vraiment un témoignage dans ce monde actuel. Mais Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Alors merci pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus. Amen.